7h33 minutes.
Boulevard 102.1.
Les éclaircies de soleil par-ci, par-là. Cet après-midi, des probabilités d'orage, c'est ce qu'on nous mentionne. Alternance de soleil-nuages pour l'instant. Risque d'orage, maximum de 12. Pour ce qui est de ce soir, ce sera partiellement nuageux avec un 60% de probabilité d'averse. Minimum de 0 avec risque de gel par endroit. Donc peut-être un peu de neige. Et Max me confirmait que tantôt dans le parc, hier dans le parc,
c'était hier après-midi,
il neigeait. Donc, on n'en est pas encore sorti, les amis. Et la semaine prochaine, c'est terminé. J'ai décidé ça. Demain, samedi, du beau soleil avec un max de 16. Peut-être un peu de pluie en soirée, minimum de plus 5 degrés. Dimanche, c'est nuageux. 60% de probabilité d'averse, maximum de 15 degrés. Et là, ce qui est le fun, c'est que lundi, mardi, mercredi, jeudi et même vendredi, sur les radars d'Environnement Canada, il n'y a pas de pluie prévue la semaine prochaine. C'est que des alternances de soleil-nuages avec des maximums qui pouvaient aller entre 12 et qui pourraient aller entre 12 et 19 degrés à peu près pour la semaine prochaine. Donc, de belles semaines qui s'en viennent. Si vous avez des choses à nous dire, 88-971-1021 par texto en tout temps. Et s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer.
Présentement, il y a une panne sur le pont Pierre-Laporte, direction Nord, ce qui cause un pas pire ralentissement. Tu sais, c'est vendredi, fait que c'est moins pire qu'à l'habitude, mais quand même, c'est au rouge en raison de cette panne. Et sinon, là, autre point chaud, c'est Laurentienne, direction sud, vers la capitale, là, un petit peu avant la hauteur boulevard Le Bourgneuf. Je vous dirais que ça ralentit, mais c'est pas grand-chose.
Merci beaucoup. On parle d'un sujet qui est quand même assez hard pour un vendredi matin, mais quand même, faut en parler. On vous parlait de la traque de cet individu qui était considéré comme extrêmement dangereux, qui a été en cavale pendant plus de 16 heures. C'est un pédophile récidiviste qui traquait et agressait des enfants dans les années 80. Il y en a qui vont vous dire ça fait un bail. C'est le genre de choses que tu n'oublies jamais quand tu es
Le violeur aux gants noirs, qu'on
Exactement.
L'appelait. Atroce.
Son nom, c'est Gilles Tardy. Ça a été une véritable chasse à l'homme pour le retrouver parce qu'on a commencé à paniquer. Il s'est évadé du centre résidentiel communautaire où il résidait. Il avait été condamné à 40 ans de prison.
Ouais.
Jeff, puis c'est juste dommage qu'on l'ait laissé sortir. Il a finalement été arrêté 16 heures plus tard dans une institution bancaire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Tu allais faire un tour dans un bar aussi, là, de ce que j'ai vu. Il purge une peine de prison à vie pour des crimes épouvantables. 1984-1985, il se faisait appeler, comme Jeff l'a dit, le violeur aux gants noirs, et il a agressé pas une, pas deux, pas trois. Il a agressé 37 victimes qui étaient inconnues pour lui et la moitié de ces victimes-là avaient moins de 11 ans.
Épouvantable.
Donc, on dit qu'il représentait le stéréotype du maniaque sexuel redouté. Il traquait ses victimes, les enlevait, les séquestrait ou il s'introduisait chez elles en utilisant un subterfuge. Il avait même kidnappé une enfant de 8 ans avant de l'amener dans un immeuble abandonné. Après l'avoir agressé, il l'avait laissé là, seul. Cet enfant qui a aujourd'hui 50 ans, c'est Véronique Rochelot. On parle avec Mme Rochelot ce matin. Mme Rochelot, merci beaucoup pour l'entrevue ce matin.
Bonjour, merci.
Ça fait déjà quelques décennies ce genre d'événement qu'on n'oublie jamais. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on communique avec vous les informations sur votre agresseur. Est-ce qu'on vous parle année après année de son modus operandi à l'intérieur des murs? Est-ce qu'on dit qu'il passe sous certains comités? Est-ce qu'on évalue le gars à savoir s'il est encore en danger? Avez-vous de la documentation année après année sur cet individu-là pendant qu'il était à l'intérieur des murs?
Oui, bien, comme moi, j'étais enfant, puis que ça faisait plusieurs années quand le traumatisme a remonté à la surface tranquillement à partir de l'âge de 28 ans, donc 20 ans plus tard. Ça a été juste à l'écriture de mon livre « L'enlèvement » en 2016. Que là, j'ai su que je pouvais être reconnue comme victime. Fait qu'à partir de ce moment-là, tranquillement, j'ai trouvé une façon d'avoir de prendre les démarches pour finalement être reconnue comme victime. Puis un coup que tu es reconnue comme victime, là, tu peux avoir accès à ces informations-là parce qu'il y a une personne qui doit entrer en contact avec toi ou t'envoyer les documents pour tout changement au sujet du délinquant. Peu importe, puis s'il s'évade ou il décède ou il s'évade puis on le retrouve, ben j'ai demandé à être averti immédiatement par téléphone.
Okay.
À ce moment-là, c'est le temps qu'il procède, tout ça, là, il nous appelle.
Ouais.
Fait que moi, j'ai eu un appel Dans le fond, c'est, je suis un peu perdue cette semaine, je m'excuse. C'est arrivé c'est comme mardi, c'est ça, hein? Ou c'est mercredi matin qu'on l'a su par les journaux.
Oui. Mais vous l'avez appris comment que Gilles Tardy s'était sauvé? Parce qu'on avait retrouvé, suite à sa sortie de prison où on l'a envoyé dans une maison de transition, on avait retrouvé des photos de pédopornographie. Vous l'avez su comment quand il s'est sauvé?
Ben c'est ça. J'ai eu l'appel téléphonique comme à 19h le soir, je pense la veille que ça a commencé à être dit là, dans les journaux.
Ouais. Ça a été quoi votre premier réflexe quand vous avez appris qu'il était en liberté et qu'on ne savait pas où il était?
J'étais figée, puis là, je regardais autour de moi, puis je cherchais du monde à qui parler. Parce que j'avais l'impression que j'étais comme dans une autre dimension, puis que pour me ramener à la réalité, il fallait que j'en parle à quelqu'un. J'avais goût d'appeler tout le monde, puis après ça, je me raisonnais, puis je me disais, ben voyons, tu sais, faut pas, pourquoi t'en parlerais à tout le monde, tu sais, ou ben, personne va comprendre, ou tu sais, c'est comment tu te sens, parce que dans le fond, on entend souvent, ben, ça fait longtemps, ça a pas l'air de t'affecter tant que ça, tu sais, ça aussi, j'ai déjà entendu ça, parce que...
Aviez-vous peur qu'il vous retrouve?
Ben, ça m'a traversé l'esprit, comme... qui décide de se venger. Puis je me suis dit, tout d'un coup, qu'il déciderait vraiment de se venger. Ou puis j'ai pas eu peur de m'afficher ces derniers temps. T'sais, fait que je me disais tout d'un coup qu'il m'a vu à quelque part, puis que là... Mais je sais que c'était pas rationnel. C'est comme ma peur d'enfant, le côté plus... naïf enfant, parce que je me raisonne puis je me dis, ben non, ce gars-là, il voulait juste s'enfuir, là, puis pas se faire attraper pour retourner en dedans. Là. Mm-hmm. Il avait pas le temps de se mettre à chercher à faire une victime d'une ancienne victime, surtout que là, je suis plus vraiment non plus dans la tranche d'âge qui l'apprécie.
Ouais. Vous parliez qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, ben voyons, ça paraît pas parce que vous avez une vie normale, justement, vous avez écrit un livre, t'sais. Mais parlez-nous, t'sais, comment ces blessures-là viennent vous suivre dans votre vie parce que vous aviez quand même été séquestré et abandonné pendant 48 heures, là, ce que je comprends.
Ben, c'est qu'à un moment donné, des fois, dans certaines situations dans ma vie, je me retrouve face à une situation. Exemple, à l'approche de ma quarantaine, j'ai commencé à avoir des crises de panique sur la route. Je me sentais confinée dans ma voiture ou dans le trafic dense. Là, je me mettais à paniquer, puis je me mettais à avoir une envie d'uriner pressante, même s'il n'y a pas de raison que j'aie besoin d'uriner parce que je viens d'uriner, ça fait 15 minutes, fait que c'est pas normal d'avoir... Puis c'était quand je me suis fait enlever, quand j'ai réalisé que j'étais prisonnière, à ce moment-là, c'est parce que j'avais une grave envie pressante puis que je voulais aller aux toilettes à l'étage puis que j'ai réalisé que j'étais enfermée là. Fait que, puis là, j'ai eu peur de la mort. Puis à 40 ans, mon père est décédé dans un accident de voiture. Fait qu'on dirait que tout ça, le choc d'un traumatisme à 40 ans, la mort... Tout ça, ça a fait monter des sensations, c'est physique, psychologique. J'en tremblais tellement que j'étais en stress. Là.
Votre livre s'intitule « L'enlèvement ».
Oui.
Pourquoi avoir accepté d'écrire un livre à ce sujet-là? Vous avez été enlevé à 8 ans. Je connais pas tous les impacts que ça a eu dans votre vie, mais j'imagine que ça a vraiment pas dû être facile. Je suis tellement empathique envers votre cause. Mais qu'est-ce que ça fait intérieurement quand on livre notre histoire puis on l'écrit?
C'est mon petit frère qui l'a écrit. Il était dans le ventre de ma mère quand j'ai été kidnappée. Il était à 2 semaines et demie de naître. Dans le fond, le fait que j'en parle avec lui, puis que ma mère en parle avec lui, quand j'ai lu le livre, parce que je l'ai lu vu que ça me concernait, puis il fallait que je lise aussi, savoir si j'étais en accord avec ce qui était écrit, j'ai appris des choses sur tout ce qui était autour pendant que moi j'étais enfermée dans cette cave-là. Ça l'a guéri certaines blessures que j'avais avec ma famille, ma mère. Ça a été guérisseur pour nous rapprocher en tant que mère-fille. Là. Mm-hmm.
En aviez-vous voulu à votre mère pour justement l'enlèvement puis l'agression physique que vous aviez vécue?
Parce que vous êtes fait enlever à l'école. Là. Lui, il a prétendu vous connaître, puis après ça, il vous a pris à ce moment-là. Là.
Pas du tout. J'en ai pas voulu à ma mère. Je m'en voulais à moi.
Ah oh, ouais, à 8 ans?
Ouais. Mais apparemment, je comprenais pas moi non plus. Puis souvent, j'ai cette réaction-là des gens. Mais quand on regarde avec un psychiatre qui est spécialisé en traumatisme infantile de ce genre, bien, ça arrive quand on passe par différentes émotions, puis qu'il y a une perte de contrôle, on passe par la colère, puis même on peut justement s'en vouloir parce qu'on repasse un scénario, puis on dit... Ah, j'aurais dû à tel moment, j'aurais dû m'enfuir à ce moment-là. À quel moment, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ou qu'est-ce que je peux faire de différent pour essayer de me sortir de cette situation-là? C'est comme un enclenchement là, qui se fait automatique dans le cerveau. Là.
Je trouve juste ça incroyable que cet individu-là ait été pendant des décennies en prison. Après ça, on a évalué son taux de récidive. On a jugé que le taux de récidive était acceptable pour... Son taux de dangerosité était acceptable pour la société. On l'a mis en maison de transition. On lui a donné 40 ans de prison. Il a fait 37 victimes, là, 37 agressions sexuelles. Ce genre d'individu-là ne devrait jamais revoir le jour. Est-ce qu'on sait s'il va être considéré comme délinquant sexuel suite à ce qu'on a trouvé dans sa chambre? Parce que même si les spécialistes, les lologues ont dit qu'il n'était pas dangereux, ben on a retrouvé des photos de pédopornographie dans sa chambre. Il est encore très dangereux. Ce gars-là devrait être en tôle jusqu'à son dernier souffle.
Ben oui, je pense que oui, mais moi, je me présentais devant le comité de libération conditionnelle. Ben, c'était tout en ligne. Puis je le voyais aussi, lui, puis je voyais les débats de l'avocate qui évoquait comment son comportement positif, puis tata, puis j'avais après, quand il y avait le jugement, ben je recevais le rapport de jugement du comité de libération, des commissaires. Puis même moi, tu sais, je voyais ça, puis des fois, il fallait qu'il s'exprime lui-même, tu sais, sur certaines choses. Puis drôlement, dans ma naïveté, je pensais qu'il y avait peut-être possibilité que quelqu'un comme lui puisse se réhabiliter s'il se tourne vers d'autres choses. Parce que dans la vie, tu sais, c'est comme une dépendance, effectivement. Tu sais, mais est-ce que c'est ça? Une dépendance, c'est soit tu t'en sors, soit tu t'en sors pas. Moi, j'ai arrêté la cigarette, puis je me sens libérée, puis je trouve ça merveilleux. Puis ça fait plusieurs années. Ça arrive des fois que je me dis, ça aurait été bon une cigarette, mais je fais juste me rappeler le goût puis l'odeur, puis je me dis non, moi, c'est fini pour moi, ça, j'ai arrêté, c'est pas pour rien. Mais je sais pas, pour ce qui est de la sexualité, je pense que ça doit être encore plus difficile parce que les sensations que ça doit procurer au niveau du cerveau avec les hormones, ça doit être encore tellement trop euphorisant que ça doit être difficile de se libérer de ça.
Vous avez dit que vous vous en vouliez à vous pour l'enlèvement que vous avez subi. Est-ce que vous en vouliez à cet homme-là? Est-ce que vous l'avez détesté? Est-ce que vous le détestez encore? Vous avez dû pardonner suite au cheminement que vous avez fait?
Est-ce que je l'ai détesté? Je sais pas. J'ai tourné ça beaucoup contre moi parce que je me rendais pas compte pour vrai que ça a pris 20 ans avant de me rendre compte que cet événement-là, ça m'avait profondément, parce qu'on a tellement traité ça comme si on n'en parle pas, comme si c'était rien, comme si la vie était normale, on continue, comme si, pour moi, ça avait pas été grave comme événement, mais finalement, ça l'a tellement laissé des séquelles graves que j'ai eu des difficultés pendant longtemps, puis j'en ai voulu, je sais pas. Je pense que j'étais fâchée, mais je n'étais pas capable de dire je suis fâchée contre une personne. C'était une situation. Puis est-ce que j'ai pardonné? Ben non, ben je pardonne pas, non. C'est arrivé. Bon ben, mais je veux pas pardonner, mais en même temps, je veux pas non plus avoir la hargne.
Mm-hmm.
Fait que si on dit si on veut pas garder la hargne puis la colère, ben qu'il faut que c'est une forme de pardon, ben d'abord j'ai pardonné parce que je veux pas garder cette forme de colère qui me ronge puis qui dans le fond c'est destructeur là, tu sais, je veux pas être comme ça.
Sans avoir et en terminant sans avoir la hargne, est-ce que vous demandez quand même aux autorités que Gilles Tardy demeure en prison jusqu'à la fin de ses jours, là, au vu là, de son évasion de cette semaine?
Ben oui, parce que dans le fond, moi, à chaque fois qu'il passait devant le comité, j'écrivais une lettre. J'en ai écrit une dernièrement que j'espère qu'ils vont lire puis porter attention. Puis je pense même que je vais en écrire une autre suite à la poursuite qu'il y a eu contre lui puis ce qui s'est passé cette semaine. Puis je veux vraiment que ça cesse parce que c'est pas normal que lui il puisse être en liberté puis que moi à chaque tranche de vie ou à chaque différent événement je revienne à des émotions qui viennent hanter ma vie puis qui viennent me nuire là.
Madame Rochelot, on est rempli d'empathie à votre égard, puis je vous félicite pour tout le cheminement puis la grandeur d'âme que vous avez encore aujourd'hui.
Merci à vous, c'est gentil. Merci beaucoup.
Véronique Rochelot, qui a écrit un livre avec son frère sur ouais. l'enlèvement qu'elle a subi à l'âge de 8 ans de la part du pédophile Gilles Tardy, qui a engendré une chasse à l'homme dans le secteur de Montréal cette semaine. Il s'est enfui du centre résidentiel communautaire où il était, dans Hochelaga-Maisonneuve, mardi soir, puis a finalement été arrêté 16 heures plus tard dans une institution bancaire dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Il avait changé un peu son apparence, s'était acheté des nouveaux vêtements, avait retiré de l'argent. Il a fait 37 victimes, des victimes qu'il ne connaissait pas entre 1984 et 1985. Ça se demandait pourquoi on a remis ce gars-là en liberté, là, alors qu'il ne méritait pas d'être en liberté. Et à un moment donné, il va falloir penser aux bonnes vieilles méthodes de feu de Doc Mayhew, là. Mm-hmm. Castration chimique obligatoire. T'sais, si après 40 ans, on juge qu'il représente un risque acceptable. Tu sais, moi, là, si tu représentes un risque, déjà là, c'est fini, qu'il soit acceptable ou pas, là, tu devrais rester à l'intérieur des murs. Mais pour la réinsertion sociale avec les lologues, ben, ils nous disent ouais, il faudrait peut-être y laisser une chance, sinon c'est cruel. Ouais. Un peu comme on a fait avec Alexandre Bissonnette.
Ouais, lui laisser une chance, mais pendant ce temps-là, la victime, 42 ans plus tard, souffre encore.
Exact. Fait que t'as une problématique sexuelle, OK, ça fait 40 ans que t'es en prison, tu sembles bien te comporter, tu représentes un risque acceptable, ben, tu vas prendre ta petite piqûre à chaque mois pour la castration chimique, ce qui fait en sorte que le moineau ne fonctionnera pas. Puis si ça ne fait pas, ben, tu vas retourner à l'intérieur des murs, c'est tout.
Ouais.
Est-ce que c'est accepté? Ouais, mais là, j'aimerais ça avoir... Non, je te pose une question. T'acceptes-tu la castration chimique obligatoire ou pas? Non? Ben, retourne en dedans.
Exactement. On a comme devoir en tant que société de protéger les enfants. Faut pas que des pédophiles comme ça à risque, comme tu l'as dit, risque acceptable, à risque, soient dans nos rues.
Max, sur la route?
La panne pour ce qui est du pont Pierre-Laporte, direction nord, ça causait des problèmes un petit peu plus tôt et c'est toujours le cas. Toutefois, le remorquage aurait été complété de ce que je comprends, fait que ça devrait se régler. Il y a deux autres points un petit peu plus chauds, là, Henri IV Sud, hauteur de la 40 et Capitale-Ouest, entre, je vous dirais, Henri Bourassa et Laurentienne.
Merci beaucoup, 752. On vient avec Jacinthe Varel tout de suite après la pause.
Pour nous informer de ce qui se passe,